Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique.
Le climat, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra, je pense, toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
L'aventure, on l'entend souvent sans réellement savoir ce que ça représente. Pour certains, cela pourrait s'apparenter à une nuit. Pour d'autres, c'est un événement fortuit, de caractère singulier ou surprenant. Pour d'autres encore, c'est un exploit, parfois même inattendu. Pourquoi en voyage, embrasse-t-on l'incertitude et le changement, alors que nous organisons au quotidien nos journées à la minute près? Pour ce désir d'aventure, tout simplement. C'est ce goût pour l'aventure qui a poussé mon invité du jour à lancer le premier média indépendant d'inspiration outdoor. Vous n'en avez jamais entendu parler? Il s'agit des Others. Thomas Fier a grandi en région parisienne et est vite rattrapé par une frustration et un besoin de faire cohabiter sa vie citadine allaitante et son désir de reconnexion à la nature. Comme le dit très bien Tristan Savin, aimer l'aventure, c'est pousser une porte sans savoir ce qu'elle cache, suivre un étranger sans connaître sa destination. C'est le goût du risque. Un premier épisode qui donne le ton de cette nouvelle saison et vous fera patienter jusqu'à votre prochaine sortie en plein air. Bonne écoute!
Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans. Je crois, ouais, c'est ça. Et je suis le cofondateur et rédacteur en chef des Others.
Et avant ça, tu n'avais pas forcément un parcours très destiné à créer un blog, et notamment dans le sport.
J'avais créé un blog dans le sport. Non, j'ai bossé.
Non, oui, c'est ça. C'était pas forcément prédestiné à faire ça.
Ah non, pas du tout. Bah en fait, j'étais prédestiné. Je sais pas à quoi j'étais prédestiné, mais j'ai pas grand chose à dire vraiment sur ce qui s'est passé avant. J'ai pas fait d'études. Enfin, j'ai commencé des études de maths, physique, qui m'ont pas plu du tout, que j'ai quitté après un an et demi, mais après surtout 10 actes de présence à la fac. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait un an et demi en y allant 10 fois, que j'ai abandonné parce que ça m'allait pas. Je voyais pas trop où j'allais en venir avec tout ça. Et j'ai joué au poker au lieu d'aller à la fac. Et petit à petit, on m'a proposé un job dans le poker en communication et marketing. Donc j'ai fait ça pendant quelques années pour apprendre ces métiers-là. Vu que j'avais pas fait d'études et tout, ça me parlait bien. En plus, c'était vraiment communication et marketing un peu... Enfin, alors marketing, ça va, mais communication, vraiment l'inverse de ce vers quoi on m'avait poussé, justement, maths, analyse, machin et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'ai fait ça. Et puis, très très vite, au bout de 2 ans, j'ai cofondé les Others pendant que je bossais là-bas, chez Betclic. Et puis, voilà un petit peu ce qui s'est passé avant. Ensuite, j'ai eu les deux en même temps. Les Others étaient un side project pendant 2 ans de plus. Et au bout de 2 ans, on a lancé le magazine papier. À ce moment-là, j'ai quitté mon taf et je me suis lancé à fond dans l'aventure, quoi. Donc là, on était en 2015, début 2015.
Et qu'est-ce qui t'a manqué dans ta première expérience pro pour te pousser à lancer les Others?
Qu'est-ce qui m'a manqué? Déjà, j'y suis resté 4 ans, il m'a pas manqué tant de choses que ça, puisque voilà, j'avais fait un petit peu le tour. Forcément, l'univers du poker aussi, c'était, comment le dire, c'est pas un univers très... ça correspond pas vraiment à qui je suis. Alors à l'époque, je jouais beaucoup au poker, donc effectivement, le poker en lui-même, le jeu, ce qu'il implique, etc., c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que je trouve encore passionnant. J'y joue plus parce que j'ai pas le temps et maintenant je suis beaucoup trop loin de ça, mais le jeu en lui-même...
Intellectuellement, c'est...
Ouais, exactement. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai fait ça, mais surtout, je suis venu habiter à Paris pour bosser. Et en fait, j'ai grandi dans une ville de banlieue assez verte, avec des forêts, avec des parcs et tout. Et je pense qu'au bout de quelques années à Paris, j'ai commencé à ressentir un peu la ville, un peu le poids de la ville qui m'a donné envie de me rapprocher un peu, ou en tout cas de retrouver un petit peu ce côté nature.
Et aujourd'hui, t'habites toujours à Paris ?
Et aujourd'hui, j'habite toujours à Paris.
Okay.
Mais j'ai une relation beaucoup moins conflictuelle avec Paris. Elle a jamais été conflictuelle, mais aujourd'hui, vu que j'ai un équilibre beaucoup plus important qu'avant entre la nature et la ville, etc., ça me va très très bien d'habiter à Paris. J'étais à Paris, et il y a plein de gens qui nous disent « Mais les Others, pourquoi vous habitez à Paris et tout ?» À première vue, ça peut sembler bizarre, et en fait...
Surprenant,
ouais. Ouais, si on y réfléchit, c'est un petit peu logique dans un sens. Alors déjà, moi j'adore la ville, ma vie est là, c'est bouillonnant, c'est hyper créatif, il y a plein de choses. Et en fait, mes expériences dans la nature ne fonctionnent que parce qu'elles contrastent en fait avec ma vie en ville.
Et aujourd'hui, comment t'as un équilibre du coup entre ta vie à Paris et ta vie proche de la nature? Tu pars tous les week-ends?
Je pars pas du tout tous les week-ends, mais déjà je sais que je peux.
Ouais.
Je sais que si je veux, je peux. Je sais que je sais le faire, que je veux dire, je suis... J'ai les compétences maintenant pour... je les avais un peu déjà quand on a lancé les Others, mais en tout cas, je suis à l'aise avec le fait de me dire, là, je peux monter tout de suite dans le premier train et partir dans la nature. Et je sais faire, je sais à peu près où je vais aller, je sais qu'il va rien m'arriver. En fait, je sens qu'elle est proche de moi, en tant que l'univers de la nature est fait partie de moi, il est proche de moi. Et c'est quelque chose sur lequel je bosse toute la journée. Donc, même si je suis à Paris, bah, en fait, les gens avec qui j'échange, ils parlent de ça, les docus que je regarde, ils parlent de ça, les livres que je lis, ils parlent de ça. Et du coup, je ressens pas une scission forte, une frontière entre les deux, genre il y a la nature et la ville. Aujourd'hui dans ma vie c'est beaucoup plus mouvant et je pars beaucoup et en même temps il y a des moments où je reste plus en ville et voilà ça va quoi. Je pense que on est proche de l'équilibre parfait entre les deux.
Ouais, je comprends l'équilibre que t'as trouvé et comment d'où vient ton appétence pour les sports outdoors?
Ben ça je pense que c'est un peu pareil. C'est difficile de dire. En fait j'ai beaucoup marché quand j'étais jeune. Disons qu'on n'avait pas la chance de faire des grands voyages parce que je viens d'une famille plutôt pauvre et donc du coup bah en fait nos vacances c'était le camping de tel endroit un peu paumé parce que pas très cher et le petit gîte de France dans telle région etc. Et donc en fait on a beaucoup marché, on a beaucoup passé de temps dans la nature, on a beaucoup fait de choses comme ça avec ma mère notamment, ma tante, ma cousine et tout. Et je pense que ça vient de là. En vrai, je l'ai théorisé un peu plus tard parce que sinon, je sais pas vraiment. Je pense que ça vient de là. Il y a des chances. Et après, bah ça se développe. C'est la randonnée parce que c'est facile d'accès. Et après, il y a l'escalade qui arrive. Et donc, je pense que c'est un peu des prétextes aussi pour passer du temps dans la nature au final.
Et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, cette connexion avec la nature, tu penses, dans ta vie au quotidien?
Qu'est-ce que ça m'apporte? Là, c'est un peu pareil aussi. Je pense que c'est compliqué de bien le savoir vu que j'ai l'impression d'avoir trouvé à peu près l'équilibre. C'est difficile de savoir si c'est la nature qui m'apporte ça, la ville qui m'apporte ça et tout, mais globalement, quand on passe du temps dans la nature, je pense que tous les gens, quand on fait l'expérience, ils s'en rendent compte. Ça nous permet de faire le vide un petit peu, de se calmer. Par exemple, en rando, le premier jour, qui est le jour où on part de la ville souvent, on commence à s'immerger un peu dans la nature, on sent bien qu'il y a un truc qui se joue. Le deuxième jour, quand tu te réveilles dans la nature et que tu passes une journée entière dans la nature, tu sens que quelque chose a changé un petit peu. T'es beaucoup moins stimulé. En tout cas par des stimulations artificielles, de notifications, machin. Tu commences beaucoup plus à te calmer, ton esprit s'éclaircit vachement. Le premier jour, souvent, c'est très brouillon, tu penses à plein de trucs, ah là là, mais tel rendez-vous, tel machin et tout. Et le deuxième jour, déjà, l'esprit a fait un peu le vide. Le troisième jour, c'est ça de plus en plus tu restes longtemps, en fait. Et donc, je pense que ça apporte ça apporte le calme, ça apporte... ça nous replace aussi un petit peu, je pense, dans la nature. Ça nous permet de se détacher un peu des trucs qui parfois peuvent nous paraître... important ou des trucs de boulot ou des trucs là on est plus calme, on se rend compte que toutes ces considérations là sont un peu des considérations du monde moderne et que c'est pas si important. Et un truc qu'on se dit beaucoup en ce moment au boulot, c'est que au boulot t'as tout le temps 1000 galères. Enfin là maintenant on est une quinzaine, on va être une quinzaine dans un mois et demi. Du coup t'as tout le temps plein de trucs qui t'arrivent, tu peux avoir l'impression que c'est grave et il y a eu un défaut d'impression sur recto verso et trucs et il faut renvoyer machin. Et en fait rien n'est grave, en fait. De tout ça là, de tout ce qu'on vit au quotidien, rien, enfin, hormis quelques cas particuliers, en tout cas dans une entreprise, rien n'est grave. Et passer du temps dans la nature, ça permet, j'ai l'impression, de se remettre un petit peu, de remettre un peu les choses en perspective, de se sentir un peu plus connecté et ça fait partie de nous au fond.
Oui, c'est vrai. Et avant qu'on parle de la création des Others, c'est quoi ta définition, toi, de l'aventure?
Alors ça, c'est un truc auquel on a beaucoup réfléchi, parce que déjà, la question, on me la pose plein de fois, alors du coup, j'ai eu le temps de la reformuler plein de fois. Aujourd'hui, je pense que c'est assez clair, à force de répondre, j'ai l'impression que ça m'a éclairci aussi un peu les idées. Je pense qu'il y a trois notions importantes, ou en tout cas, trois notions importantes de la manière dont nous, on imagine l'aventure chez les Others. Et qui est évidemment la vision que je porte aussi. Je pense qu'il y a trois choses importantes. Donc il y a évidemment la nature, une connexion avec la nature, je vais dire saine entre guillemets, mais une connexion vraie à la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de domination ou d'utiliser la nature comme un terrain de jeu, enfin grossièrement quoi, etc. Il y a une vraie volonté en tout cas d'être connecté à cet élément-là, à se laisser un peu submerger, à pas essayer de le contrôler, mais en même temps à vouloir être proche de tout ça. Donc il y a vraiment ce côté naturel. La deuxième, c'est en tout cas que nous on porte, c'est vraiment le côté acteur de tout ça. C'est-à-dire que on veut que les gens soient acteurs ou actrices de la chose. C'est-à-dire qu'on pense que le fait de savoir lire une carte, s'organiser soi-même, tracer son itinéraire potentiellement, regarder un peu le nom des lieux autour, se renseigner, etc., ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus gratifiant que de mettre ses chaussures dans les pas d'une agence de voyage qui va être simplement l'intermédiaire entre toi et potentiellement un guide, et de suivre, entre guillemets, encore une fois, c'est bêtement le truc, quoi. Je sais bien que c'est pas comme ça que les gens imaginent le faire, mais et je pense pas que ce soit bêtement le bon mot, mais en tout cas, il y a quelque chose de très important dans le fait d'être acteur de ce truc-là et de pas juste, entre guillemets, consommer un espèce de voyage tout organisé, tu vois. Et le troisième point, qui est important forcément, c'est laisser une petite part d'inconnu dans tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que si tu traites l'aventure comme ta to-do list du lundi matin, bah en fait, t'as vraiment perdu la petite part d'inconnu qui te laisse en fait qui te laisse une petite part de liberté finalement, qui est celle que t'as pas vraiment dans ton quotidien, que t'as pas vraiment dans ton boulot, que t'as pas toujours dans ta vie de famille, tu dois faire des concessions, des trucs, etc. Tu dois t'organiser avec les uns, les autres, tes potes, machin. Et là, dans la nature, si tu essayes de pas tout contrôler, justement, ça rejoint en fait finalement les deux premiers points, le fait de se laisser un peu immerger par ce truc-là et tout, par la nature. Ben, en fait, si tu laisses une petite part de liberté, enfin d'inconnu, tu t'offres une part de liberté là-dedans. Et donc, ça veut dire aussi être prêt à l'accueillir. Là, ça fait très truc de méditation, yoga, accueillir la nature et tout, mais c'est être prêt à
accepter, voilà, l'inconnu.
Accepter l'inconnu, les choses vont se passer, il peut pas se passer grand-chose de grave. Laisse le truc couler, on verra si en fait au bout d'un moment on veut partir à gauche, parce qu'on veut partir à gauche, mais on ira à gauche. Et puis ce sera pas très grave si on n'atteint pas exactement l'endroit qu'on s'était fixé comme étape de fin, etc. Donc c'est vraiment se laisser quand même la porte ouverte à voilà, des choses qui pourraient arriver d'elles-mêmes en fait. Des rencontres, des animaux, des gens, un chemin finalement qui va vachement plus te donner envie que celui que t'avais prévu de faire.
C'est marrant parce que tu dis il peut rien arriver de grave. Mais au contraire, moi je trouve que dans la nature, dans la montagne, même dans le podcast Les Baladeurs que vous avez cofondé, on entend quand même des histoires qui sont parfois assez graves. Même
ouais. Alors dans Les Baladeurs, c'est particulier parce que les gens qui nous racontent des histoires graves, c'est des gens qui se comptent sur les doigts d'une... Enfin, ouais. Qui se comptent potentiellement sur les doigts d'une main, qui sont des grands, grands alpinistes, qui vont défier des sommets à 8000 ou voilà, qui vont dans des endroits où il y a des ours et tout. Quand je dis « peut rien t'arriver », je parle évidemment d'un environnement « safe », entre guillemets. Je parle pas de la montagne en hiver où il peut t'arriver des millions de trucs. La montagne en été aussi, potentiellement, si tu fais pas gaffe. Et d'ailleurs, tu fais bien de mettre le doigt là-dessus, mais quand je dis « laisser une part d'inconnu » et tout, ça veut pas dire partir comme ça, pas regarder l'itinéraire, partir en short alors que tu pars en montagne et tout. Il faut être conscient, effectivement, qu'il y a... Bah, c'est la nature, c'est sauvage, ça peut être vertigineux, ça peut être dangereux, on peut se casser la jambe, etc. Mais en fait, si on fait gaffe, qu'on prend pas de risques inutiles, etc., bon, bah, tu peux très bien aussi te péter la jambe sur un trottoir à Paris. Donc, tu vois, les animaux, ils vont rien te faire. La nature, si t'es bien, si t'as de quoi boire, de quoi manger et de quoi avoir chaud quand tu pars dans un environnement froid, bah, en fait, non, qu'est-ce qui peut t'arriver? T'as pas fait exactement le sentier que tu voulais faire, t'as dû faire demi-tour le premier soir, t'as pris la flotte, t'es rentré trempé. Rien de ça n'est grave. En fait, on s'en fiche, c'est pas grave, tu vois. Tu repartiras le week-end suivant.
Ouais, non, c'est vrai. Moi, c'est une question que je m'étais posée, c'est quand vous avez lancé les Others, vous n'êtes pas dit... Bah, la montagne, comme tu le disais, l'été comme hiver, ça peut être dangereux. Et notamment des gens qui n'ont pas la capacité physique et qui peuvent se mettre un objectif sportif qui n'est juste pas à leur niveau. Et là, ça peut aussi être problématique. Est-ce que vous essayez de sensibiliser aussi votre audience à ces risques-là ou pas spécialement?
Alors, on sensibilise beaucoup aux règles de bonne conduite dans la nature, plutôt sur le côté écologie, les déchets, comment on plante un bivouac, à quelle heure on part, à quelle heure on arrive, comment on s'organise globalement pour pas laisser de traces derrière soi ou pour en laisser le moins possible, parce qu'en laisser aucune c'est quasiment impossible. Mais bref, sur les dangers, bah là par exemple sur Recto Verso, on a mis des encarts quand même sécurité sur la montagne. On recommande si les gens sont vraiment très 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 débutants et qui vont en montagne, potentiellement de prendre un guide la première fois, etc. Mais non, on n'a pas une petite mention comme il pourrait y avoir écrit sur les paquets de cigarettes, genre au début d'un épisode des Baladeurs, attention, ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà, on fait pas ça, non. Par contre, on aide les gens à, notamment dans Recto Verso encore, à bien définir leur niveau, pour bien définir le nombre de kilomètres qu'ils vont pouvoir parcourir, ce qu'ils doivent mettre dans leur sac été comme hiver, etc. Et effectivement, faut pas se mettre en danger. Après, là, il y a plusieurs visions qui se posent. Moi, je considère qu'on n'a pas la responsabilité de faire en sorte que les gens fassent pas n'importe quoi. Si nous, quand on leur a expliqué, on leur a bien expliqué, s'ils lisent le truc en diagonale et que derrière, ils font n'importe quoi, tu pourras jamais vraiment éviter ça. Là, maintenant, ça fait 10 ans qu'on fait les Others. On n'a jamais eu de retour de quelqu'un qui nous dit « Ah, c'est de votre faute, vous avez écrit ça, en fait, j'y suis allé, il y avait un ravin, tu vois. » Mais dans Recto Verso, on a quand même fait gaffe à bien définir les niveaux de sécurité, le matériel emmené et tout.
Et du coup, on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce que tu peux présenter les Others de manière succincte, même s'il y a plein de projets, notamment Recto Verso? Je te laisse présenter tout ça.
Alors, les Others, c'est un média indépendant pour les passionnés d'aventure en pleine nature. Ça, disons que c'est un peu le chapeau global. Nous, notre manière de traiter tout ça, il y a plein de médias, je dirais, qui pourraient potentiellement se décrire un petit peu dans le même genre. Nous, on a choisi de traiter tout ça du côté un petit peu lifestyle, si ce mot veut encore dire quelque chose. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le telle chaussure sur tel sentier, sur tel nombre de kilomètres, etc. On va donner des aspects pratiques comme ça, mais on a aussi toute une réflexion qui est beaucoup plus globale que ça, autour des valeurs que ça implique, que ce soit dans les baladeurs, donc qui est le podcast, dans lequel les gens viennent raconter des aventures ou des mésaventures en pleine nature. Donc en fait, il y a toujours un peu des sous-textes. Il y a des sous-textes d'écologie, il y a des sous-textes de peur, il y a des sous-textes de dépassement de soi, il y a des sous-textes des bienfaits de la nature sur le corps. En fait, il y a plein de sous-textes quand on lit les Losers. La vraie volonté avec tout ça, c'est que les gens soient un peu plus connectés avec la nature et qui apporte un petit peu de nature dans leur quotidien. Voilà, donc c'est un média qui prend pas mal de formes. Donc on a un magazine papier qui sort tous les 6 mois, qui est une grosse revue en fait de 304 pages avec des belles photos. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a aussi un vrai aspect esthétique à tout ça. Donc des belles photos, des belles typos, des illustrations. On bosse beaucoup sur la forme. On essaie de bosser la forme et le fond de manière très intimement liée à tout ce qui va comprendre le web, donc les réseaux sociaux, une newsletter, le site internet. Voilà, il y a le podcast dont j'ai parlé et le dernier projet qu'on a lancé l'année dernière, donc Recto Verso, qui est une sorte d'outil pédagogique, qui est une grande carte de France, en fait une carte méthode, donc pour aider les gens à passer plus de temps dans la nature. Si je le pitch rapidement, c'est une grande carte de France un peu au format carte routière, très grande. Au Recto, t'as une carte de France avec 800 espaces naturels qui sont numérotés et qui sont classés ensuite selon est-ce que c'est un lac, une forêt, une montagne, etc. T'as aussi des sentiers de randonnée qu'on a sélectionnés avec la Fédération Française de Randonnée, t'as des véloroutes, t'as les régions, t'as les massifs, donc t'as plein en fait d'éléments naturels qui vont être le point de départ de ton organisation. Et au verso de cette carte, donc c'est pour ça que ça s'appelle Recto Verso, t'as toute une méthode, une sorte d'arbre décisionnel un peu qui te dit définis ton niveau. Donc là on te propose plusieurs niveaux, on te dit à quoi ils correspondent. Ensuite définis le nombre de jours que tu veux partir, choisis ta région, donc à côté t'as toutes les régions qui sont expliquées avec des courbes de pluviométrie et tout. Et tu déroules en fait une méthode comme ça en 8 étapes pendant laquelle tu vas choisir ta région, tracer ton itinéraire, apprendre à lire une carte IGN, choisir tes lieux de... tes hôtels, tes machins, enfin tes refuges, tes endroits où tu vas camper, prendre tes billets de train, régler ton matos, choisir ton matos et tout. Donc c'est vraiment un truc qui descend comme ça. Peut être utilisé aussi bien par les débutants et débutantes, genre qui veulent vraiment y aller pour la première fois, ou qui peut être utilisé aussi, bah nous on l'utilise vachement maintenant, pour juste être sûr de rien oublier dans les étapes. Ok, bon bah je pars tant de jours, je pars là, je vais choisir telle région parce qu'à telle époque il fait beau. Là tiens, je vais tracer mon itinéraire sur cette appli, je vais la tracer comme ça, je vais m'acheter telle carte IGN. Voilà, donc ça te permet aussi de bien organiser ton truc, parce qu'on a remarqué quand même qu'il y a pas mal de gens qui partent jamais, parce qu'ils savent pas par où commencer, il y a quand même beaucoup de choses à penser, et donc nous on a voulu simplifier ce truc-là, pour que les gens sautent le pas, quoi. Et avec ça, t'as des petites fiches sur lesquelles il y a des itinéraires qui sont déjà tracés par la communauté, que tu peux reprendre si jamais tu sais pas exactement où partir la première fois, etc. Et une plateforme en ligne pour que les gens échangent entre eux. Tous les gens qui ont acheté Recto Verso puissent échanger entre eux dans un environnement, disons, fermé ou en tout cas privé, dans lequel ils peuvent avoir confiance les uns envers les autres, s'échanger du matos, s'échanger des bons plans et tout, quoi. Donc voilà, ça c'est Recto Verso, c'est beaucoup de choses.
Moi je savais pas du tout que derrière vous avez créé toute une communauté Recto Verso.
Ouais.
Et tous les chemins que vous avez indiqués, vous les avez testés, ou au moins des personnes de la communauté Losers les ont testés?
Ouais. Alors sur la carte, en fait, qui est une carte que tu utilises chez toi, en amont pour préparer ton voyage, les chemins sont pas tracés, hormis des gros sentiers de randonnée qui traversent des régions, puisqu'en fait c'est une carte à l'échelle de la France. Tu peux pas aller sur le terrain avec et te repérer. L'échelle est trop petite. Ou trop grande, je sais plus. Bref. Donc oui, en fait, c'est un truc pour t'organiser en amont. Ensuite, sur les petites fiches, les 100 fiches qui y accompagnent, qui sont 50 pour le vélo et 50 pour la rando, là oui, c'est des trucs qui ont été faits, c'est des trucs qui ont été tracés et testés par des gens. Maintenant, sur la carte, l'idée c'est que parmi les millions de possibilités, tu fasses ton truc toi-même, quoi. Est-ce que tu vas choisir un massif? Est-ce que tu vas choisir un parc naturel? Il y a ça aussi au Recto. Et ensuite, plus tu vas avancer, plus tu vas tracer un truc sur mesure. Donc nous, on les a pas tracés sur la carte, puisqu'il y a une infinité de possibilités, quoi. L'idée, c'est vraiment que les gens deviennent autonomes et reprennent un petit peu la main sur l'organisation, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'on pense que pendant l'organisation, il se passe quelque chose déjà. Tu découvres, tu apprends, tu vas te renseigner, tu vas apprendre le nom du sommet à côté et tout, et quand tu vas y aller, tu seras beaucoup plus... apte à profiter du moment, parce que tu t'en sauras plus sur ce qui se passe autour de toi, quoi.
Et tu... Ouais, tout à fait. Et tu l'as évoqué au début, les Losers, vous l'avez lancé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le sport outdoor, ça n'avait pas du tout le même succès qu'on connaît aujourd'hui. Comment tu l'expliques, toi?
Le succès grandissant?
Ouais, le sport outdoor.
Ouais, ben, je pense que c'est au-delà du sport outdoor, c'est la nature au sens large qui retrouve un petit peu dans le cœur des gens, qui retrouve un peu sa place dans le cœur des gens. Je pense que les raisons, elles sont assez simples. C'est juste qu'on travaille beaucoup, qu'il y a plein de gens qui sont en burn-out, que la société dans laquelle on vit recherche aussi un petit peu plus d'épanouissement personnel maintenant, et c'est des choses qui se passent par la nature. Je pense que c'est un phénomène global qui va encore potentiellement se développer ces prochaines années. Et donc, comme les sports outdoor, c'est un peu aussi un prétexte pour passer du temps dehors, bah, l'un dans l'autre, ça a fait que les gens ont voulu essayer des nouvelles choses, quoi, et passer du temps dehors.
Est-ce que vous avez vu par exemple aussi l'impact du Covid? Est-ce que vous avez l'impression que votre communauté elle a grandi suite au Covid ou pendant le Covid?
Ouais, alors on l'a, si on l'a vu, on l'a vu dans les chiffres de vente du magazine par exemple, ou dans les écoutes de podcast. On l'a pas vu nécessairement dans le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Puisque maintenant on arrive quand même à des périodes où la croissance organique sur les réseaux sociaux est un phénomène très compliqué. Donc il y a pas genre il y a un confinement et il y a 300 000 personnes qui s'abonnent à ton compte Insta dans la foulée, mais par contre on l'a vu ouais dans les ventes de magazines. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit je vous ai découvert pendant le confinement, j'écoutais les baladeurs, ça m'a sauvé mon confinement, voilà. Donc il y a quand même pas mal de gens de la communauté qui nous ont dit des choses comme ça. Ouais, il y a eu ce point-là, et on voit bien maintenant dans une salle d'escalade à Paris aussi le nombre de personnes qui ont commencé l'escalade depuis genre un an et demi, depuis que en fait ils sont ressortis du confinement, il est énorme. Il y a plein de gens qui sont là depuis un an, quoi. Ah ouais, bah, je sais pas, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'avais envie de nature et tout, du coup, je me suis mis un peu à l'escalade. Et là, en ce moment, on
Aussi avec
recrute.
l'explosion des salles de sport.
Ouais. En ce moment, on recrute, et le nombre de candidatures de personnes qui m'ont dit « je vous ai découvert pendant le confinement, je vous ai découvert pendant le confinement, je me suis rendu compte pendant le confinement que j'avais besoin de nature et tout », il est énorme, ouais.
Ouais, c'est dingue. Et on l'a abordé tout à l'heure, tu disais que par rapport, vous vous sentez pas du tout, enfin, vous donnez des clés pour votre audience et pour vos auditeurs pour qu'ils puissent se reconnecter à la nature, mais après chacun est responsable et à juste titre de ce qu'il fait dans la nature et aussi un impact écologique. Est-ce que vous avez eu peur de démocratiser le sport outdoor par rapport à aussi l'impact que ça peut avoir sur la nature?
Alors non,
Non, c'est clair.
on n'a pas eu peur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on fait énormément de sensibilisation, depuis toujours dans nos magazines, depuis sur Recto Verso on l'a fait, on a créé avant Recto Verso aussi l'initiative d'avant, on a créé le code de l'aventure responsable qui était un truc sur notre site que tu devais signer, donc lire et signer, qui est une espèce de charte de bonne conduite qu'on avait récupéré sur la base d'un truc qui s'appelle Leave No Trace, qui est une association américaine, je crois, qui existe depuis très longtemps et qu'on avait un petit peu adapté avec des considérations qui sont, je dirais, un peu plus actuelles, ou en tout cas plus de notre communauté, c'est-à-dire on a rajouté des trucs sur les réseaux sociaux, on a rajouté des trucs sur les animaux, les photos, les feux et tout. Les feux, ça devait déjà être dedans. Mais on a rajouté des choses comme ça, et c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup communiqué à notre communauté. Quand on écrivait un article, on renvoyait vers ce truc-là. Dans Recto Verso, on a remis des liens vers ce truc-là. Pendant un moment, quand on présentait les plus beaux espaces naturels de France sur notre compte Instagram, on avait toujours une petite mention, les espaces naturels présentés sur ce post sont fragiles, machin, veillez à bien les respecter et tout. Donc en fait, nous, notre postulat, qui est, je pense, juste, jusqu'à preuve du contraire peut-être, c'est que quelqu'un qui vient, qui va découvrir un espace naturel, entre guillemets, de la part des others, quelqu'un qui va venir parce qu'il a vu un truc sur notre site ou dans notre newsletter et tout, il sera beaucoup plus, ouais, il sera beaucoup plus sensibilisé, et il connaîtra beaucoup mieux les enjeux et les risques de sa présence sur place que quelqu'un qui va venir parce qu'il aura lu un article, les 5 plus belles randos de France sur Elle Magazine, tu vois. Parce que qui est un média qui parle de millions de choses différentes, et qui du coup quand il parle de ça, il en parle une fois, et donc il peut pas mettre un encart avec écrit attention la nature et tout, parce que c'est pas forcément un sujet qu'ils connaissent bien. Et d'ailleurs j'ai dit elle au hasard, ils prennent un peu une balle perdue, mais j'aurais pu dire n'importe quoi, qui est en fait un gros média qui n'est pas spécialisé. J'ai aucun problème avec Elle Magazine au demeurant. Non mais voilà, en gros c'est les gens qui viennent de la part des others seront plus on l'a plus sensible à ça.
Et toi, à titre personnel, ou du moins avec tes cofondateurs, depuis le temps que vous faites du sport outdoor, donc de la randonnée, de l'escalade, est-ce que vous vous rendez compte que cette nature, elle est mieux protégée, moins protégée? Comment vous percevez cette évolution?
Franchement, moi, à mon humble niveau, je peux pas remarquer ça, quoi. C'est plutôt les gardiens de refuge. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois sur ce sujet. Les gardiens de refuge, eux, ils voient des vrais changements. Ils voient des gens qui arrivent en tongs à 23h au refuge. Ils voient limite des gens qui font des barbecues à la montagne, tu vois, qui ont de la musique sur des enceintes, ces trucs-là. Moi, je sais pas, je fais une quinzaine de randos dans l'année. Souvent, en plus, je m'organise pour être là où les gens sont pas au même moment que moi et tout. Du coup, je croise finalement assez peu de gens et j'ai.
Ouais, je pense vois... plutôt sur les déchets. Est-ce que vous avez l'impression que, t'as l'impression qu'il y a 10 ans, il y avait plus de déchets dans la nature ou plutôt maintenant ou de...
Franchement, je saurais pas dire. J'imagine qu'il y en a plus si les, vu que les sentiers sont plus fréquentés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des espaces naturels qui sont beaucoup plus soumis à la pression du nombre de visiteurs, qui vont être le Tour du Mont Blanc, le GR20, les Calanques de Cassis, la Presqu'île de Crozon, qui sont des endroits qui sont très sensibles, qui sont des endroits qui sont limités en termes d'espace. Et dans ces endroits-là, il y a des vraies problématiques, il y a des vrais enjeux de mise en place, parfois de quotas, c'est ce qu'ils ont fait dans les Calanques, de sensibilisation des visiteurs, de voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est difficile aujourd'hui. Moi, j'ai pas particulièrement de solution. Nous, on a, encore une fois, une des volontés de Recto Verso, c'était de régler ce problème-là. C'était de dire, plutôt que de faire un article avec les 10 plus belles randos de France, qui est un article qui existe quand même sur notre site depuis longtemps, en fait, on va faire Recto Verso. Et en fait, parmi l'infinité de possibilités, les gens vont se répartir sur le territoire parce qu'on n'a pas hiérarchisé les endroits. On a proposé 800 espaces naturels à voir en France. On n'a pas dit, ah, lui, il faut absolument le voir. Et lui, en vrai, si vous avez le temps, allez le voir. On n'a pas hiérarchisé. On a donné une liste. On n'a même pas mis de photos. Vraiment, l'idée, c'est de dire aux gens, tous les endroits sont intéressants si vous vous mettez dans la bonne démarche et dans la bonne dynamique, qui est évidemment pas celle de vouloir aller où tout le monde va pour faire la photo que tout le monde a faite, mais de vous répartir. Donc nous, Recto Verso, à l'échelle de notre communauté, c'est une proposition de réponse. Après, dans notre communauté, il y a 500 000 personnes. Je sais pas combien vont sur les sentiers dans l'année, mais c'est déjà conséquent. Après, c'est rien par rapport aux millions de personnes qui foulent les calanques ou tous ces trucs-là, et donc il y a encore du travail à faire. Nous, on fait notre part du boulot, on continue à essayer de grandir et puis de vendre plus de Recto Verso, puis d'ailleurs, ça nous fait vivre, donc je veux dire, il y a un double avantage à ça, mais on ne pourra pas sensibiliser tout le monde, à moins que demain, il y ait 8 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais du coup, dans ce cas-là, on aura un autre problème. Parce qu'il faudra encore inventer un truc plus flou que Recto Verso pour que les gens aillent encore... Enfin, là, Recto Verso, ça marche s'il y a, y a une infinité de possibilités. Donc, si 100 000 personnes l'utilisent, 200 000, potentiellement 300 000, ça peut encore marcher. S'il y a 8 millions de personnes qui l'utilisent, peut-être qu'il va falloir passer à des échelles plus grandes de sensibilisation, de faire des actions potentiellement et tout, quoi.
Et c'est un sujet que vous aviez également abordé dans un de vos magazines. C'était le paradoxe entre voyage et écologie. Mmh. Donc, bah, tu l'as abordé un petit peu avec Recto Verso. Comment vous le percevez ensuite aujourd'hui dans les Others?
Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot voyage, de ce qu'on met derrière le mot tourisme et de ce qu'on met derrière tout ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, ma conviction profonde, c'est que le voyage, comme on nous l'a vendu ces 20 dernières années, est un truc qu'il faut qu'on oublie. Alors, c'est difficile parce qu'il faut le désapprendre. Mais en fait, il faut oublier. Je pense qu'il n'y a pas ou vraiment une. Très 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 peu de bonnes manières de le faire. Il n'y a pas de bonne manière d'aller à l'autre bout du monde en avion pour 15 jours, ou même pas en avion d'ailleurs, il y a très peu de bonnes manières d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, de vivre un truc authentique sans avoir d'impact sur la faune ou la flore locale, sans avoir d'impact sur les populations locales, sans avoir d'impact sur tous ces trucs-là. Il y a des différences qui sont trop importantes entre un touriste qui va arriver à Bali, par exemple, et la population qui va vivre là-bas, qui va être très pauvre et tout. Je pense qu'il y a peu de bonnes manières de faire ça, et je pense que avoir conscience de ça, des limites de ce truc-là, ça nous permet d'essayer de commencer à l'oublier et de se dire, bon bah tant pis, je verrai pas l'Everest dans ma vie, c'est pas grave en fait. Mais c'est juste que ces 20 dernières années, on m'a dit que je le verrais, c'est facile, il suffisait juste que je prenne l'avion. Et donc il faut désapprendre ce truc-là pour se dire, ok, tant pis, c'est pas grave, enfin je veux dire, si je le vois pas, ça ira très bien. Et surtout, je pense que le point qui est important là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, quand on voyage et qu'on a l'impression que nous, on est des vrais voyageurs et que les autres sont des touristes et tout, on fait partie des touristes, on a le même impact que les autres. Et en fait, on voit une version un peu fantasmée, un peu biaisée aussi de la réalité. Tu vois, si tu prends un avion pour aller au Pérou et qu'il y a des Péruviens déguisés en Péruviens, entre guillemets, tu vois, à l'aéroport, qui jouent de la flûte, dire ils sont pas là par plaisir, ils sont là parce qu'ils sont déguisés pour les touristes. Tu vois, il y a très peu de gens qui vivent comme ça et tout. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce qu'on a l'impression que ça nous apporte quelque chose? Je pense qu'il est temps de questionner ce truc-là, ouais. J'ai une analogie que... Alors, il va falloir que j'essaie de bien la raconter, parce que en général, je la formule un peu dans ma tête, mais tu vois, par exemple, voir un lion, si tu vas voir un lion au zoo, Moi, je suis contre les zoos, évidemment, mais si tu vas voir un lion au zoo, est-ce que tu as vraiment vu un lion comme tu as envie de voir un lion? C'est-à-dire un lion sauvage, un lion qui est dans son élément, un lion qui court, un lion qui rugit et tout. Tu vas voir un lion tout rabougri dans une cage, c'est pas ça, voir un lion. Et du coup, est-ce que voir le Pérou, pour reprendre l'exemple du Pérou, avec des populations qui ont été déguisées pour les touristes qui arrivent, tu vois, est-ce que ça, c'est vraiment le Pérou que tu as envie de voir? Je pense pas. Et donc, du coup, vu qu'aujourd'hui, tu as très peu de moyens de le voir autrement, sauf si tu y vas à pied ou que tu pars y vivre 5 ans, bah en fait, il faut juste se mettre dans la tête que bah, tant pis, tu le verras pas, quoi. Et c'est pas très grave.
C'est quoi ton plus beau voyage?
Je pense que mon plus beau voyage, c'est la Patagonie.
Ouais.
Et du coup, ça contredit. mais je suis très à l'aise avec le fait qu'il y a un gros paradoxe là-dessus, puisque je m'exclus pas du tout de toute la discussion qu'on vient d'avoir. J'en ai fait partie. Je suis allé en Australie, je suis allé en Islande, je suis allé en Patagonie, voilà. Je pense qu'il est temps de le désapprendre, mais je l'ai quand même fait. Voilà, c'était pas un regard de l'extérieur, genre ouais, sur quelqu'un qui juge les gens, c'est une remise en question globale. Et d'ailleurs, chez Leuthors, quand on remet en question le global, on se remet en général en question avec, quoi. C'était la Patagonie, ouais. La Patagonie, c'est incroyable. Faut pas y aller, du coup, parce que c'est très loin, faut prendre plusieurs avions et tout. Mais c'est magnifique. Ou alors, faut y aller, faut partir maintenant, faut se dire qu'on va voyager pendant un an, faut partir en traversant des pays, faut partir en bateau, j'en sais rien, mais c'est fou, la Patagonie, ouais. C'est la terre de. C'est le bout du monde, quoi, vraiment. C'est des glaciers, c'est des montagnes incroyables en plus qui font partie de la légende de l'escalade, de l'alpinisme. Il y a des voies incroyables, des rochers, c'est fou.
Et tu es allé du coup en rando, escalade?
Pas escalade, je crois que je faisais pas d'escalade à l'époque. Ou en tout cas c'était le début, mais j'y suis allé faire de la rando, ouais. Je suis allé dans un petit village qui s'appelle El Chalten, qui est le camp de base de départ vers les montagnes justement de Patagonie, donc le Fitzroy et tout. Et voilà, j'ai fait de la rando là-bas. Dormir dans des petites auberges, enfin voilà, des trucs cool, quoi.
Et j'avais lu aussi, t'as fait un road trip, non? De Los Angeles à l'Alaska. Tu l'as fait, finalement?
Ah non, c'est pas moi qui ai fait ça.
C'est pas toi?
Non, ça doit être quelqu'un qui... Nous, on publie beaucoup de récits d'autres gens sur le site.
J'ai lu sur les Others, mais c'était sur... Du coup, ça devait pas être toi.
Non.
Je me suis posé la question.
On a plein de contributeurs qui publient. Et même qui habitent là-bas parfois, enfin qui sont étrangers, on essaye, par exemple, là on a bossé avec l'Office du tourisme du Costa Rica, qui voulait mettre en avant une logique de préservation de la forêt chez eux et tout. Bah, on a cherché un journaliste qui habitait là-bas, un photographe qui habitait là-bas, et on a échangé ensemble pour qu'eux ils le fassent, quoi. Pour pas prendre un avion, aller à l'autre bout du monde, faire un reportage de 4 jours. On fonctionne beaucoup comme ça. Et du coup, on a des contributeurs qui sont partout dans le monde. Et si tu lis un road trip de l'Alaska à je sais pas où, potentiellement c'est quelqu'un qui habite dans le coin. Après, il y a aussi des Français qui voyagent, encore une fois. La vision de « il faut arrêter d'aller loin », je pense que le temps qu'elle passe à toutes les franges de la population, ça va prendre un petit peu de temps.
Mais c'est aussi une de vos volontés, j'imagine, avec les Others, de permettre aussi aux gens de se reconnecter avec la nature proche, et de leur dire bah, « vous pouvez faire ça et vous allez voir des choses magnifiques ». Moi, je me souviens, vous avez fait un guide, là, les 52 aventures.
Ouais.
52 micro-aventures. Et
en France, ouais. Ouais.
En France, et notamment en faisant le parallèle avec des...
Oui.
Des endroits partout dans le monde que ça rappelait, donc...
Ouais, c'est ça. Mais ça va être dur, hein, parce qu'on se l'est mis dans la tête, quoi. On se l'est mis dans la tête qu'on allait voir le Grand Canyon, qu'on allait voir la Grande Barrière de Corail, qu'on allait voir tel truc, on se l'est mis dans la tête. Donc maintenant, se dire que finalement, on le verra pas, ou potentiellement pas, ou alors que si on le verra, ce sera au détriment de la planète, au détriment des populations qui vont vivre sur place, etc., bah c'est... Ouais. Ça va être dur de le désapprendre. Mais ça va être le jeu, quoi. Je crois qu'on n'aura pas le choix. Hein. Nous, en tout cas, sur les Others... Des récits comme ça, il n'y en aura plus, quoi, à l'avenir. Ou alors, c'est des récits de gens qui habitent là-bas.
Ouais.
Donc voilà, il va y avoir, il y a ces choses-là, il y en a déjà. Aujourd'hui, je pense que 90%, 95% potentiellement de nos articles, c'est des trucs qui se passent en France. Donc voilà, c'est pour ça
quoi,
que ça fonctionne.
C'est quoi la prochaine aventure qui t'attend?
La prochaine aventure qui m'attend, elle est pas simple, parce qu'on va dans le sud, dans un endroit qui s'appelle Prel, qui sont des falaises d'escalade, et on va dormir en portaledge. Tu vois ce que c'est? C'est les espèces de tentes que tu suspends dans les parois pour dormir à même le vide, là. Voilà, donc c'est ça là que je vais faire. Donc là, on est en train de s'organiser pour faire ça. C'est le prochain truc que je vais faire là.
C'est ta première fois? C'est la première fois que vous faites ça?
Ouais. Oh, la vache. Et on part avec des potes, enfin des gars qui ont ouvert des salles d'escalade à Paris, là, avec qui on s'entend hyper bien, dont un qui est un très bon grimpeur et qui nous emmène faire ça. Donc voilà, on flippe un peu, mais on va y aller, on va voir. Ça va être ça le prochain truc.
Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que c'est vrai que tu l'as abordé, les Others, c'est très créatif, il y a cette notion d'inspirer, et de parler de voyage et d'aventure, et de Spar Outdoors, c'est quoi tes sources d'inspiration ?
Qu'est-ce qui nous a inspiré à l'époque et mes sources d'inspiration maintenant, ça a un peu évolué, mais ce qui nous a inspiré à l'époque, c'est vraiment le renouveau de la presse indépendante. En 2012, je crois, il y a eu un magazine qui s'appelle Kinfolk, qui a été lancé aux États-Unis, un magazine aussi qui s'appelle Serial, ces deux magazines existent encore. Hein. Et en fait, ces deux magazines-là ont été un peu l'événement déclencheur de tout un renouveau de la presse indépendante. En fait, en gros, à l'époque, tout le monde disait, ce que les gens disent toujours, la presse, ça se casse la gueule, il faut pas se lancer là-dedans, c'est un secteur mort. Et en fait, t'as des magazines donc comme ces deux-là qui sont arrivés avec un autre modèle économique, avec une autre proposition, donc de sortir tous les trimestres ou tous les semestres, qui est un truc qui coûte 20 euros, qui s'achète en librairie ou dans des petits concept stores et tout. Et nous, on a été hyper inspirés par ces trucs-là, et d'ailleurs, je pense que nos premiers magazines ressemblaient plus à ces trucs-là qu'à nous-mêmes. Mais vu qu'on connaissait, non, on savait pas faire de la presse, donc on s'est inspiré de trucs qui existaient déjà. C'est petit à petit qu'on a trouvé notre empreinte, qui aujourd'hui est propre. Mais au début, bah forcément, on s'est un peu inspiré des autres, c'était très proche, voilà. Et en France, il y a un magazine qui s'appelle Désillusion, qui était un magazine-livre, il sortait des magazines-livres qui étaient fondés par deux mecs qui s'appellent Pierre David et Seb Zanella. Et eux, leur univers, c'était hyper esthétique, et ils traitaient de surf et de skate. Et en fait, ils avaient pris le contre-pied des magazines de surf et de skate classiques qui traitent la plus belle figure, la compétition de tel truc, machin. Et eux, ils étaient partis en mode esthétique, lier ça à la musique, au cinéma, enfin vraiment faire un truc hyper graphique et tout. Et eux, ils nous ont beaucoup inspirés parce que, en gros, on a fait un peu la même chose, sauf qu'au lieu de le faire sur l'univers du surf et du skate, on l'a plutôt fait sur l'univers de la montagne, l'escalade, le trail, la rando et tout, quoi. Même si on traite aussi un peu de surf et tout, c'est un peu moins notre univers. Ça nous a beaucoup inspirés, ouais. C'est un peu un mélange de ces trucs-là. Et après, les magazines au sens large, les bouquins, on lit beaucoup au global. Et aujourd'hui, on est devenus un peu des malades de la presse indépendante, les bouquins, les petites librairies, les illustrateurs, les illustratrices, tel photographe et tout. Aujourd'hui, ça fourmille, quoi. Ça va dans tous les sens. On a une team créa qui fait que ça. Enfin, on fait tout ce que ça, en fait. Donc ça vient dans tous les sens.
Et plus en termes de personnalité, les personnes qui t'inspirent, toi, au quotidien, pour déjà continuer les heures, parce que j'imagine que c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile, ouais. C'est pas toujours facile quand on commence à être nombreux comme ça. C'est vraiment le cas de le dire, je pense.
Je sais pas d'ailleurs. Enfin, question qui me vient, vous avez pas douté à vous lancer sur un secteur qui est quand même. La presse indépendante, ça paraît bouché de prime abord.
En fait, on n'a pas douté parce qu'on n'avait pas la volonté d'en faire ce que c'est devenu. Donc on s'est pas dit, bon, alors à la fin, il faut qu'il y ait un magazine papier, un podcast, une agence, parce qu'on a aussi une agence à côté avec laquelle on accompagne des marques et entités qui veulent travailler dans cet univers et tout. On n'a pas regardé. Là, on voit les choses par la fin. Donc on se dit, effectivement, maintenant, ce qui a été bâti, c'est un peu important. Et donc, du coup, mais en fait, quand tu montes les marches les unes après les autres, t'as pas peur parce que, tiens, bah, si on faisait un magazine, tu te dis, bon, bah, ton site, il est cool, il plaît à des gens. Si on faisait un magazine papier, ok, pourquoi pas. On a qu'à faire un crowdfunding, ok, pourquoi pas. On fait un crowdfunding, ça marche. Bon, bah, on lance le premier numéro, ok, bon, bah, on en a vendu assez, on lance le deuxième numéro. Et en fait, ça avance comme ça, quoi. Qu'on n'a jamais eu la peur de regarder en arrière ou en avant plutôt et de se dire, ouah, non, le chemin qui nous reste à parcourir, il est trop énorme et tout. Parce que déjà, on n'a pas la volonté d'aller énormément plus loin. Notamment sur le média, en termes de taille d'équipe, en termes de tous ces trucs-là, mais aussi parce qu'on a vraiment fait les choses les unes après les autres, quoi. Et on s'est pas mis la pression, tu vois. Moi, la première fois que je me suis payé avec les Others, c'était en 2017, alors qu'on a commencé en 2012, tu vois. En fait, on a eu le temps de voir venir, et d'un côté, c'est un gros avantage parce que ça nous a permis de rester proche de ce qu'on voulait vraiment. Si on l'avait fait très vite pour gagner de l'argent et tout, je pense qu'on aurait dû faire des choix qui auraient pas forcément été les bons parce qu'on aurait réfléchi en comment on va pouvoir transformer ça en argent. Plutôt que comment on fait pour faire le meilleur truc. Tu vois, le podcast Les Baladeurs, si on avait réfléchi pour faire de l'argent avec à la base, on aurait sûrement fait des épisodes hyper courts, on aurait sûrement fait des interviews parce que ça marche mieux, machin. Mais en fait, le fait de l'avoir réfléchi vraiment de la manière la plus créative possible, ou en tout cas de la manière dont on voulait le faire, bah, ça nous a permis de le faire comme on voulait le faire. Et si jamais bah, ça se transformait jamais en argent, bah tant pis. C'est pas grave, on continue de le faire comme on aime. Et en fait, ça a plu aux gens. Et donc, du coup, on a trouvé des annonceurs qui nous permettent de financer le truc. Alors, tu vis pas avec un podcast comme Les Baladeurs, mais déjà, tu peux le rentabiliser. Tu peux faire en sorte de pas perdre d'argent en le faisant, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, donc, non, on n'a pas trop regardé loin en se disant, ouais, il faut qu'on atteigne ça. Qu'on n'a pas eu peur, non. Et on était plusieurs aussi. On était trois.
Ouais, ça faisait trois.
Tout seul, jamais. Enfin, en tout cas, pas moi. J'aurais pas pu le faire tout seul, c'est sûr. C'est vraiment un truc collégial, que ce soit pour la dynamique de groupe, pour les doutes, pour le moment où t'es fatigué, où il y en a un autre qui va te remettre un peu du boost et tout. Puis même pour gérer une boîte aujourd'hui, du coup on va être 15. C'est moi le président de cette boîte, effectivement. Donc c'est moi qui, disons, qui fait en sorte que les discussions importantes sur les process, les finances, machin, soient lancées et qu'on ait ces discussions là, mais ensuite on les a à trois. Donc je suis un petit peu plus impliqué que là-dedans, mais c'est vraiment très minime, c'est collégial quoi. Et clairement moi tout seul j'aurais jamais fait ça, et j'aurais même pas eu envie de le faire en fait. Ça m'aurait pas amusé, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et je pense que c'est bien d'être plusieurs dans ces moments-là.
Et c'est quoi votre business model actuellement du coup? Parce que vous avez les podcasts, le magazine, donc le magazine vous...
Le magazine on le vend du coup.
Vous avez un revenu, oui.
Ouais, alors aujourd'hui notre business model de la boîte au global, il est divisé en deux. Il y a la moitié de la boîte, du chiffre d'affaires, disons, de la boîte qui vient de l'agence. On fait de la prod, on fait des films, on fait des photos, on fait de la stratégie de toutes les marques et entités qui tournent autour de l'univers des Others. Ça peut être des équipementiers, ça peut être Columbia, ça peut être des offices de tourisme, ça peut être aussi, puisque sur l'agence, on a ouvert un petit peu, disons, notre champ d'action à tout ce qui va être terroir, savoir-faire et tout. Donc, on travaille avec des vins et des spiritueux, on travaille avec des choses comme ça. Là, il y a la moitié du chiffre d'affaires qui sert à financer l'agence, en fait. Et le média qui sert à financer le média, donc qui est rentable aussi des deux côtés. Il y a le magazine, il y a les annonceurs et il y a Recto Verso. Donc en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. T'as un tiers de vente de magazine, un tiers de vente de Recto Verso et un tiers de budget annonceurs qui viennent mettre de la pub au début du podcast, qui viennent mettre de la pub dans le magazine, qui viennent sponsoriser un article sur le site, etc., quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et après, t'as un petit peu de vente du magazine dans des boutiques. Mais sinon, c'est globalement des ventes de magazines en ligne, ouais, directement sur notre site.
Ok. Et aujourd'hui, vous connaissez un petit peu vos clients, votre audience? Vous savez comment elle se situe? Est-ce que c'est une audience citadine qui, du coup, s'associe à ce que toi, tu disais, le fait d'avoir envie de se reconnecter avec la nature quand on vit dans une ville effervescente? Est-ce que c'est plutôt des gens qui habitent déjà proche de la nature?
Je pense que c'est un peu des deux. Au début, ça a surtout été les villes, je dirais, qui avaient besoin de se reconnecter à la nature aussi, parce que nous, c'était notre profil. Et donc, du coup, forcément, on traitait, je dirais, un peu plus des sujets comme ça. Aujourd'hui, notre connaissance de l'outdoor, de son milieu, de ses tendances, de ses courants, de ses auteurs, de ses photographes, de ses illustratrices et tout, c'est un truc qu'on connaît très profondément. Donc, on peut parler à tout le monde, puisque même quelqu'un qui connaît déjà, il va trouver des trucs intéressants chez nous. Alors que potentiellement, au tout début, peut-être qu'on était un peu les Parisiens de l'outdoor, quoi. Et alors ça plaisait pas trop à un de mes associés qui, lui, a ses deux parents qui sont guides, qui est plus chez les Others aujourd'hui, mais ses deux parents sont guides de montagne, genre guide d'escalade. Lui, il a grandi à la montagne, il a fait ski, études, tout le bordel. Et de savoir qu'il y avait quelques personnes qui nous considéraient comme les Parisiens de l'outdoor, ça le mettait mal, ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que aujourd'hui, déjà, on a rencontré la majorité des acteurs du secteur et on s'entend bien avec tout le monde, quasiment. Et on a des vraies connaissances là-dessus, donc on apporte vraiment beaucoup, je pense, dans le magazine papier, dans le podcast, des histoires qui parlent à tous les gens qui aiment la nature, en fait.
Et comment tu l'as rencontré, du coup, ton associé, s'il a grandi à la montagne, puisque toi, t'as grandi en région parisienne?
Ouais, alors à la base, on a cofondé les Others à trois. Donc Nicolas Legras, Baptiste Picardem, qui est celui qui a les deux parents guides, qui est monté faire ses études à Paris, en fait. Et moi, à Paris, j'ai des potes qui allaient souvent aux Arcs, et donc lui, il vivait aux Arcs, et donc il le connaissait. Donc, quand il est venu faire ses études à Paris, etc., on l'a rencontré, il était avec nous et tout. Et donc Nicolas Legras, qui est en fait un de mes potes depuis toujours, j'ai l'impression, c'est des amis que j'ai depuis 15 ans. Même là, j'ai 34 ans, donc bientôt 20 ans presque. Ouais, 15-20 ans. C'est des gens que j'ai eu toujours dans mes potes, et en fait un jour on s'est dit allez, on fait un truc ensemble, on a tous les trois envie de parler de ça, c'est parti quoi. Donc depuis, dans l'intervalle, Baptiste est parti vers un autre métier et on a un nouvel associé, donc on est trois associés actuellement. Damien Bettinelli qui lui nous a rejoint 2016 au moment où on a lancé l'agence plus tôt et qui a pris cette partie là en charge. Donc voilà, lui il est vraiment arrivé, je dirais, après. C'était le copain de notre DA. Donc notre graphiste, elle faisait la DA du magazine, et du coup on était souvent avec elle, et donc lui il était là, et donc on s'entendait hyper bien, et puis il avait des compétences que nous on n'avait pas du tout, parce que nous disons qu'on est un peu plus des créas, et du coup on avait du mal à vendre notre salade aux annonceurs, on avait du mal à hyper bien vendre notre truc. On le vendait très bien aux lecteurs et aux lectrices, mais on avait du mal un peu à faire adhérer les marques, à leur faire comprendre que ça allait leur apporter ci, ça, ça et tout. Donc lui il est arrivé pour faire ça, quoi. Et du coup, ça a très bien fonctionné, il y a eu un super fit et il nous a rejoint. Et maintenant, on est bien content qu'il ait croisé notre route.
Ok, super. Et puis juste peut-être pour finir, vous considérez aujourd'hui que c'est qui vos concurrents? Parce qu'il y a, du coup, il y a 10 ans, il y en avait très peu dans le sport outdoor. Il y en a un peu plus aujourd'hui.
Ouais, alors, il y a 10 ans, il y en avait des... En fait, si on prend la concurrence au sens large, Il y en avait déjà plein il y a 10 ans. Mais nous, on s'est jamais considéré en concurrence contre ces gens-là. C'est des magazines qui sont plus spécialisés, qui sont Montagne Magazine, Vertical, tu vois, qui sont vraiment des trucs hyper précis, avec qui on s'entend hyper bien. Et en fait, c'est des trucs qui sont plutôt complémentaires. Donc nous, on les considère pas vraiment comme nos concurrents. Je dirais que nos concurrents, c'est plutôt... Je pense que d'un point de vue client, il y en a peu. Parce qu'en fait, tu peux acheter, donc comme je disais, Montagne Magazine et les Others. Tu vas pas acheter l'un ou l'autre. Soit tu vas acheter l'un parce que t'aimes l'un, soit tu vas acheter l'autre parce que t'aimes l'autre. Mais si t'aimes les deux, tu vas acheter les deux. Je dirais que là où il peut y avoir un peu de concurrence, en tout cas d'un point de vue business, c'est sur les annonceurs. Est-ce que Columbia, ils vont mettre leur budget chez nous ou est-ce qu'ils vont le mettre chez Montagne Magazine, par exemple? Donc là, il y a un peu de concurrence. Mais en même temps, vu qu'on n'est pas positionné pareil, nous, on s'embête pas trop avec ça. Je dois te l'avouer. Alors oui, forcément, en 10 ans, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés. Il y en a pas mal qui, en plus, sont venus s'inspirer beaucoup chez nous. Parfois un peu trop. Alors de temps en temps, on grinçait un peu des dents et tout. Mais globalement, c'est plus des blagues que sérieux, quoi. Je pense que là, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas dans un marché ultra concurrentiel dans lequel il n'y a pas moyen de faire sa place, quoi. Si ce qu'on fait c'est bien, il y aura de la place. Si ce qu'on fait c'est pas bien, il y aura plus de place et ce sera un petit peu le jeu, quoi. Parce que si t'ouvres à ça, on est en concurrence avec sur la partie agence, on est en concurrence avec plein d'agences, on est en concurrence avec les photographes indépendants, on est en concurrence avec plein de gens, en fait, avec tous les créateurs de contenu, on est en concurrence avec en fait aujourd'hui t'es un peu en concurrence avec tout le monde, quoi. Si tu crées du contenu, des photos, des vidéos, des textes.
Et pour toi, comment tu justifies le succès des Others? Comment vous avez réussi à, depuis 10 ans, sortir votre épingle un peu du jeu?
Eh ben, je pense que je le justifie par le biais du survivant. C'est-à-dire que vu qu'on est encore là aujourd'hui, on peut justifier notre succès, mais je pense qu'il y a une part de chance. On est arrivé au bon moment. Clairement, tu vois, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure sur le besoin de reconnexion à la nature des gens, on l'a peut-être eu en fait 2 ans avant... En fait, on a peut-être eu juste le courage de lancer un truc sur ce sujet-là 2 ans avant les autres, mais la tendance, elle était déjà lancée, j'imagine. Nous, on l'a ressenti, en tout cas. On s'est pas lancé en se disant « il y a un truc à faire », mais on l'a lancé parce que nous, on sentait qu'on avait besoin de se reconnecter à la nature. Mais je pense qu'on est arrivé au bon moment. Et après, on travaille très dur. On travaille très dur, et je dirais que notre petit avantage par rapport à certains, c'est que on est très créatif. Et c'est là-dessus qu'on met nos efforts. C'est-à-dire que notre team, c'est des teams créa. C'est-à-dire que chez les Others, ton commercial, il a la même variable que ton graphiste. Enfin, je veux dire, vraiment chez nous, la création, la créativité, les formats, les visuels, les textes et tout, c'est hyper important. C'est autour de ça que s'articule le reste. Et vu qu'on n'a pas eu besoin au début de gagner notre vie là-dessus et tout, on a pu rester sur quelque chose qui nous parlait vraiment et qui était, je pense, très créatif. Et du coup, ça nous a permis de faire un truc vrai, entre guillemets, et de le faire comme on le sentait, quoi, sans devoir lui trouver un business model tout de suite. Et après, voilà, on travaille dur, y a plein de gens intelligents chez Others, et puis voilà, je pense que en vrai c'est beaucoup de chance, hein, ces trucs là c'est la bonne rencontre au bon moment de l'associé de Damien dont je parlais tout à l'heure, le fait que ça matche bien, que à tel moment t'as tel truc à tel moment, enfin voilà, on a traversé le premier confinement aussi alors que sur l'agence on a perdu tous nos clients en 2 semaines, enfin voilà, il y a plein de choses, en fait il y a un peu de chance, il y a beaucoup de travail. Et puis voilà.
Il y a juste une question à laquelle t'as pas répondu, c'était les personnes qui t'inspirent aujourd'hui.
Ah ouais, les personnes qui m'inspirent aujourd'hui. Moi, je lis beaucoup. Les gens qui m'inspirent sont souvent des auteurs ou des autrices. Alors plus souvent des auteurs, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup plus de, notamment dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux d'ailleurs, mais il y a beaucoup plus de.
C'est tout le support auteur.
Ouais, d'hommes que de femmes. Alors ça tend à se rééquilibrer un petit peu. Nous, on essaye de travailler beaucoup dans ce sens-là, dans les baladeurs, d'essayer d'avoir le même nombre de femmes que d'hommes et tout. Mais bref, ceci étant dit, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de livres qui ont traversé les époques et tout d'hommes. Donc du coup, les auteurs, en ce moment, il y en a un que j'adore qui s'appelle Bill Brisson, qui est un mec qui a écrit un livre qui est mondialement connu qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, que j'ai lu il y a pas longtemps et j'avais jamais rien lu de ce mec. Et du coup, là j'enchaîne tous ses livres en ce moment. Et en fait, c'est un auteur donc américain qui était journaliste et qui allait vivre en Angleterre quelques années, une dizaine d'années je crois, ou une vingtaine, je sais plus, et qui est revenu aux États-Unis et qui a raconté les États-Unis, mais du coup avec un œil vachement plus détaché parce qu'il avait... Il s'en était éloigné pendant longtemps avant de revenir. Et donc dans ce bouquin-là qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, il raconte son aventure sur l'Appalachian Trail, donc qui est un trail aux États-Unis qui fait je sais plus combien de miles, mais c'est des milliers de kilomètres, je crois que c'est genre 3500 kilomètres, un truc comme ça, qui traverse toutes les Appalaches, les Rocheuses et tout. Et il raconte ça, et en fait il raconte ça sur un ton qui, pour la première fois, je me dis, chez les Others, il faut qu'on écrive comme ça. Tu vois, chez Losers, on a beaucoup cherché notre ton sur le papier, ça va, sur le site, on galère un peu et tout. Il a exactement le bon ratio de je te le raconte de manière détendue, avec des petites vannes, un peu de cynisme, parce qu'en plus, il raconte la vie des États-Unis, le fait que le rapport de la marche aux États-Unis, qui est un pays où les gens marchent pas du tout, tout se fait en bagnole, où il n'y a pas de trottoir, machin. Donc, c'est assez marrant, il est hyper cynique. Et en même temps, tu lis ce bouquin, t'as appris des millions de choses, c'est-à-dire que t'es pas reparti les mains vides, t'as appris des millions de choses sur les forêts, t'as appris des millions de choses sur la culture américaine. Et là, j'enchaîne tous ces bouquins, donc je suis en train de lire un autre qui s'appelle Motel Blues, il y en a un autre qui s'appelle American Gigolos, il y en a plein, il y a l'histoire du monde sans sortir de chez soi et tout, enfin bref, il a sorti plein de trucs cool. Et ce mec-là m'inspire beaucoup en ce moment, ouais. Après, je pourrais répondre Yvon Chouinard, mais j'ai l'impression que tout le monde répond ça, donc on perd un peu en consistance sur ce sujet. Mais oui, évidemment, des gens comme Yvon Chouinard sont...
Il y a sur lui sur la table basse.
Ouais, voilà, ouais, c'est évident. C'est des gens qui sont hyper importants pour faire bouger les choses. Et évidemment, très inspirant, c'est la personne que j'aimerais recevoir dans les baladeurs le plus possible, mais qui ne donne aucune interview. Mais
pourquoi
voilà.
Tu penses parce qu'il veut rester...
Non, parce que c'est bon, il a fait son temps. Il en a marre, il veut faire de la pêche à la mouche et il veut pas se faire emmerder, quoi. Ce que je peux comprendre. Il est très dur à avoir. Alors, quand je discute avec les gens de Patagonie, ils me disent « Ah, mais si vous voulez, on a telle personne, il est aussi hyper, hyper inspirant et tout. » Je dis « Ah, moi, je serais chaud pour avoir Yvon Chouinard. » En plus, il parle français et tout. Enfin, bref. Donc, Yvon Chouinard, évidemment. Et après, il y a tous les alpinistes. Il y a plein de bouquins très cool. Là, il y a un bouquin dont on a pas mal parlé aussi chez les Others, qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage », qui a été écrit par une femme qui s'appelle Lucie Azema et qui a fait tout un travail de recherche sur la place des femmes dans le voyage. Et c'est un essai, en fait, qui détaille un petit peu comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé au fait que les femmes n'aient pas leur place là-dedans, qu'elles se sentent en danger, etc. Et c'est hyper intéressant. Et c'est ce genre d'initiative qui permettent aussi de replacer un petit peu les choses dans le bon ordre, je pense, pour le futur. Donc c'est souvent des gens qui écrivent des bouquins quand même. Ça fourmille beaucoup de bouquins, de sorties et tout. Et il y a vraiment plein de trucs cool. Donc voilà.
Et quand tu dis que tu lis beaucoup, c'est par exemple chaque semaine, tu te bloques des créneaux pour lire ou tu lis tous les soirs en rentrant chez toi?
Alors ça dépend des périodes. Là, on est en bouclage de magazines, donc malheureusement, je fais pas ça, mais je regarde aucune série, par exemple. C'est pas un truc que je me suis fixé, genre je regarderai aucune série. C'est juste j'ai développé avec le temps, très tard d'ailleurs, j'ai commencé très tard à lire. J'étais rédac chef chez Losers avant de commencer à lire vraiment. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment commencé à apprécier ça. Et en fait, plus tu lis, plus t'apprécies ça. Et donc voilà, ouais, le soir dans mon lit, je lis, quoi. Puis vu que j'habite dans un petit appart avec mon fils qui est encore dans la même chambre que moi, du coup je lis à la frontale et tout, c'est l'aventure, quoi. Non, mais ouais, c'est ça. Et je lis plein de bouquins trop bien, mais on pourrait en parler pendant des heures là. J'ai des gens souvent que je finis par interviewer quand même dans les baladeurs d'ailleurs, donc Lucie Azema, avec qui j'essaye de m'entretenir en ce moment pour caler un entretien pour les baladeurs, avec un mec que je vais voir demain d'ailleurs, qui s'appelle Sam Boget, qui est un alpiniste et guide chamoniard qui a écrit des bouquins incroyables. Pareil, en fait, dans les bouquins d'aventure et tout, il y en a plein qui sont pas très bien écrits, parce que souvent l'histoire est ouf et des fois c'est pas très bien écrit. Et du coup, quand tu tombes sur un mec comme Sam Boget par exemple, ou comme Babil Brison, ou ces gens là ça fait plaisir, quoi.
C'est une intention, non? Et ça, c'est peut-être... C'est comme Yvan Chaoui, quoi.
Oh non, bah non, Sylvain Tesson, ouais. Alors, je suis pas le plus grand fan du personnage, mais ouais, il a écrit des bouquins et je pense qu'ils sont des bouquins qui permettent de bien mettre le pied à l'étrier ensuite dans d'autres trucs, quoi. J'en ai lu plein de Sylvain Tesson, enfin plein, pas tant d'ailleurs. J'ai dû en lire trois, tu vois. Et ouais, c'est cool, ça permet de se mettre dans le truc, quoi. Dans les forêts de Sibérie, c'est une bonne introduction, je dirais, à l'univers de l'outdoor. Et il faut aussi des écrivains un peu comme ça, grand public, pour donner envie aux gens de rentrer dedans, quoi. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens, enfin c'est sûr d'ailleurs, son film, tu vois, c'est des trucs qui parlent à plein de gens, quoi.
Et vous avez jamais eu envie de l'avoir dans Losers? C'est moins votre ligne éditoriale?
C'est un peu mitigé, je le recevrai avec plaisir dans les baladeurs, j'ai déjà d'ailleurs échangé avec son agente, etc. Mais c'est pas l'objectif final. S'il y a un boss de fin, c'est pas Sylvain Tesson, quoi. Tu vois, Sylvain Tesson, Mike Horn, qui sont des gens qui ont fait énormément, qui sont des aventuriers très grand public, etc., qui correspondent pas exactement à ce que nous on veut raconter, mais qui sont des gens qui sont quand même passionnants, hyper intéressants. On les recevra sûrement un jour. Mais tu vois, quand on s'est dit on va lancer les baladeurs, on s'est dit surtout il faut pas qu'on invite ces gens-là au début, parce que sinon ça va donner une empreinte à l'ensemble. Et je schématise, mais on veut pas, on veut rester sur quelque chose de profond et d'indépendant. On veut pas devenir l'aventure TF1. Et donc du coup, on finira par les avoir. Mais en fait, si tu les as en saison 4, c'est très différent que si tu les as au début de la saison 1. Tu vois, ça donne pas la même impression. Et ça permet aussi de discuter d'autres choses que de leur, je dirais, un peu de leur starification et tout. Tu vois. Voilà. Après, c'est des sujets qu'on rediscute plein de fois. Moi, c'est des gens que j'admire, évidemment, mais c'est pas les étoiles dans la nuit, quoi, pour nous. Il y en a plein de gens qu'on a rencontrés qui sont incroyables et qui sont des gens qui ont 300 followers sur les réseaux sociaux et qui n'ont jamais écrit un bouquin. Et des comme ça, je peux t'en citer 50, quoi. Et qui font souvent, d'ailleurs, les meilleurs épisodes des baladeurs.
J'allais dire, toi, c'est lequel ton épisode préféré des baladeurs ?
Bah alors, moi, j'aime beaucoup, évidemment, les épisodes avec Jérémy Villiers, qui est en plus devenu un ami depuis, quelqu'un avec qui... Je passe quand même pas mal de temps chaque année, donc forcément ils ont une empreinte un peu particulière. Et il a aussi, de toute façon, faut le dire, une manière de raconter les histoires qui est assez impressionnante. C'est très poétique, il arrive à emmener les gens avec lui, c'est très visuel. Tout le monde l'adore, de toute façon, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je connais personne qui m'ait jamais dit du mal de ce mec. Donc voilà, donc ceux de Jérémy Villiers, j'aime beaucoup. J'aime évidemment ceux avec les légendes de l'alpinisme, Catherine Destivelle, du coup, que j'ai eu la chance de rencontrer. Elisabeth Révol aussi, qui vient raconter... C'est un peu les histoires dont tu parlais tout à l'heure, des histoires incroyables, etc. Ouais. Et après, si je parle de... J'aime beaucoup les épisodes qui ont un petit aspect scientifique. Donc celui de Jean-François Clairvoy qui va réparer le télescope Hubble, ou celui de Michel Siffre qui a passé 60 jours dans une grotte sous terre, etc. Et après, dans les plus jeunes ou dans les gens qui sont moins connus, etc., y a un épisode que j'adore. En fait, il y a tellement d'épisodes que j'adore...
Pour ça, tu peux pas te souvenir de tous les noms.
Si, je pourrais me souvenir de tous les noms, mais c'est juste que là, ça se bouscule un peu. Il y a un épisode disparu dans la forêt amazonienne que j'adore, avec Guilhem Néral. Il y a Eric Loiseau que j'adore, qui est un monsieur que j'avais interviewé dans le premier magazine des baladeurs, des Others au tout début, donc qui est revenu dans les baladeurs et tout, c'est cool. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Écrire la montagne du diable, avec Miguel Bonnefoy, qui est un auteur aussi, qui est parti au Venezuela dans une expédition pas possible. Enfin voilà, j'aime bien ces trucs-là. Et dans le genre, Jérémy Villiers aussi, on a fait des épisodes. Là, dernièrement, j'ai rencontré une ornithologue qui s'appelle Corizan Dabivin et qui m'a raconté une histoire super avec des albatros. J'ai rencontré Arnoul Matteo qui m'a parlé des morilles de feu, qui est aussi un écologue. Enfin voilà, j'ai rencontré plein de gens trop bien, quoi. La rumeur des forêts avec Sandra Bérénice Michel qui parle du loup aussi. Donc c'est... Les baladeurs, c'est un des trucs que quand je le regarde et que j'essaie de prendre du recul, je me dis putain, quand même, c'est bien, c'est cool ce qu'on fait, quoi. Tu sais, des fois, t'as du mal à prendre du recul. Mais les baladeurs, il y a tellement tout le temps des gens qui te disent tous les jours que c'est trop bien, que c'est un truc où pour une fois, tu te dis putain, ouais, c'est vrai que c'est trop bien. Et même quand moi, ça m'arrive fréquemment de réécouter des épisodes des baladeurs, alors que je les ai déjà écoutés 8 fois au moment où je les ai créés, tu vois, où je participais à leur création et tout.
Et c'est quoi de votre. Donc, ça, c'est sûrement un de tes plus gros succès avec les Others?
Ouais, des trucs dont le magazine, ouais, les baladeurs, ouais, clairement.
Et le truc, votre plus gros échec, selon toi ?
Notre plus gros échec, en fait, vu qu'on avance très vite et qu'on teste les projets très vite, nos échecs ne sont jamais des gros échecs, c'est des petits échecs. En fait, on teste des choses, on voit que ça marche pas, on l'abandonne, on teste un truc, on voit que ça marche pas, on l'abandonne. Du coup, en vrai, j'ai même pas de réponse à cette question. Notre plus gros échec...
Ouais, ce serait plein de petits échecs et...
Ouais, c'est plein de petits échecs, en tout cas, on essaye de se mettre dans cette démarche de...
Tester.
Ouais, en fait, on crée plein de choses qu'ils voient jamais, parce qu'en fait, on les lance. Si ça a pas plu aux gens, bah toi, tu l'as pas vu dans ton feed, par exemple. Et donc, du coup, le truc, on le fait 2-3 fois, on voit que ça répond pas, les gens nous disent que c'est pas ouf et tout, on l'abandonne. Et donc, du coup, on a lancé plein des projets comme ça, on en lance constamment plein, en fait. Et des idées, on en a des listes de 300 qu'on va continuer à lancer et à lancer, quoi. T'as pas de gros échecs.
Et c'est quoi vos prochaines étapes, du coup, pour les Others ?
Nos prochaines étapes, d'un point de vue création et tout, c'est le lancement de la chaîne YouTube. Là, on est en train de bosser là-dessus. Cet été, on va faire, du coup, le Recto Verso Tour. Donc, on va prendre Recto Verso et on va faire un petit tour de France. 4 semaines, 4 aventures, basées sur Recto Verso, rencontrer la communauté et tout. Et là-dessus, sur ce support-là, enfin, sur ce... Donc là, on va lancer la chaîne YouTube. Donc ça va être le gros truc, là, qui arrive. On est en train de finaliser le volume 15 papier. Donc ça, c'est vraiment les deux gros projets. Recrute aussi, enfin, et d'un point de vue global, on recrute, on change de bureau. Là, pour le coup, on a des problématiques sur lesquelles on bute un peu, pour être honnête.
Administratives.
Ouais, surtout des problématiques d'équipe, de management. Nos boulots, ils ont quand même pas mal changé en 2 ans, là. En tout cas, les boulots des 3 associés, on a tous maintenant une équipe de 4-5 personnes à gérer. Faut gérer les individualités, faut gérer les groupes, faut que tout le monde se sente bien dans son travail, faut que tout le monde... C'est... En plus de tout l'opérationnel et tout, c'est très dur. Et là, on prend une petite claque là-dessus, ouais. Donc on essaye de se mettre à niveau, mais c'est dur et les employés nous le font sentir. Et ils ont raison, c'est la nouvelle manière de... C'est comme ça que ça fonctionne maintenant, le monde du travail. Les gens, ils ont envie d'être heureux au travail, ils ont envie d'avoir une bonne balance pro-perso, ils ont envie d'être épanouis, ils ont envie de bosser pas trop tard le soir, et ils ont raison. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer pour des nouveaux managers comme nous, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, et ils sont incroyables, potentiellement ils vont écouter ce podcast, donc voilà, ils sont trop forts, ils savent bosser quand il faut bosser et tout, mais par contre ils veulent que tout soit bien, et nous on n'a pas eu l'habitude de gérer ça. Avant on gérait une toute petite équipe, on se manageait nous-mêmes, tu vois, donc là il y a un vrai enjeu qui pour le coup est, on est d'accord tous les trois pour se regarder dans les yeux et se dire, en ce moment c'est dur là, en ce moment c'est dur. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, si j'étais tout seul dans cette situation, à avoir 15 personnes, manager, trucs, manager, plusieurs niveaux de management et tout, franchement, on a pas fait ça pour ça, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est cool aussi de savoir, c'est des challenges qu'on va rencontrer là, et qui sont stimulants, mais qui sont difficiles, et qui sont, pour l'instant, je pense, les plus difficiles qu'on ait rencontrés jusqu'à maintenant.
Ouais. C'est dingue.
Ouais. Donc voilà, il faut changer de bureau pour que tout le monde soit bien, que ce soit pas trop le bordel au bureau, que c'est con, hein, mais que tout le monde ait sa clé pour pouvoir partir arriver quand il veut, que les gens bossent sur des trucs qui leur plaisent, qu'ils s'entendent bien avec les autres membres de l'équipe, que les échanges soient fluides, que tu vois, de temps en temps, quelqu'un va te demander un truc, tu vas être en train de faire 1000 trucs, du coup tu vas lui répondre sans faire exprès un peu sèchement, et du coup la personne elle va sentir mal, il va falloir que tu aies une discussion. Enfin, c'est con, mais ça c'est très dur, très difficile, pas du tout naturel quoi. Pas du tout naturel comme le reste qui est notre travail.
Ouais,
le reste c'est notre métier en fait, et notre passion. On crée des trucs, on lit des bouquins, on écrit, on machin. On prend des photos, oui, ça on sait le faire et c'est notre passion. Mais maintenant on doit faire en sorte que tous les gens qui le fassent avec nous le ressentent bien aussi et tout quoi.
Et j'imagine que c'est un de vos traits de recrutement, enfin c'est un critère de recrutement, la passion pour le sport outdoor ou pas spécialement?
Pas du tout.
Ah ouais, pas ouais, du tout.
Alors je vais donner aucune leçon de recrutement je pense dans ce podcast. pour la simple et bonne raison que j'en ai raté un l'année dernière et que j'en paye encore le prix, puisque du coup ça a raté, du coup il y a une période d'essai qui est pas allée au bout, du coup j'ai fait tout à l'envers. J'ai mal mis les mauvais critères, les mauvais trucs de recrutement et tout, du coup j'ai recruté une personne qui fitait pas exactement. Et du coup là la personne qui vient reprendre ce poste là va commencer bientôt. Cette fois là je l'ai recruté dans le bon sens, j'ai l'impression. Et du coup pendant 6 mois j'ai dû faire le travail que cette personne était censée faire et recruter une nouvelle personne en même temps et tous les autres trucs et tous les autres trucs. Donc ça m'a coûté très cher en point de vie de rater ce recrutement, donc je vais donner zéro leçon là-dessus. Voilà. Mais on progresse. Je pense que là j'ai eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses avec cet échec. Ça pourrait être ça notre plus gros échec.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça peut être ça votre plus gros échec.
Ouais. Après encore une fois, c'est comme je disais aussi au tout début, c'est pas grave.
Ouais, c'est pas...
Je veux dire, la personne a très bien compris, elle était à l'aise avec ça, on était d'accord en fait pour dire qu'on s'était pas trouvé et tout. Mais ouais, on l'a payé cher, les gens qui ont récupéré le taf, qui devait normalement être fait par cette personne, l'ont payé cher. En partie Antoine du coup et moi quoi. Enfin Antoine du coup qui bosse aux médias avec moi et qui s'occupe de la partie contenu, marketing et tout. L'a payé et moi je l'ai payé, ouais. Donc là on est content de voir que ça approche. Mais c'est pas fini parce que la personne arrive, faut l'onboarder, faut qu'elle comprenne bien et tout. Voilà. Donc non, le sport outdoor pas tellement, ce qui compte beaucoup pour venir chez nous, c'est d'être, comment je pourrais dire ça, en anglais ils disent doer, mais genre d'être
acteur.
Ouais, acteur, et ça veut dire tous les gens qui sont allés un peu loin dans les phases de recrutement chez nous ont des side projects créatifs souvent. Ça peut être de la photo, ça peut être un podcast, ça peut être un truc et tout, mais qui montre une envie de créer des choses, parce que c'est ce qu'on fait toute la journée, on crée des choses quoi. Et du coup c'est ouais un moteur, quelqu'un qui va de l'avant et qui avance et qui fait des choses, et c'est pas grave au passage il casse des choses, mais en cassant des choses il fait plein de choses bien et on se focalisera là-dessus quoi. Donc ça c'est vraiment important. Et le sport outdoor c'est bien d'avoir un
petit attrait.
Ouais, un attrait évidemment, une envie de nature, etc. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que le profil que je cherchais en tout cas sur ce poste, c'est-à-dire qui sache très très bien écrire, qui connaisse le sport outdoor, qui soit très très créatif, et c'est très différent de savoir bien écrire. J'ai rencontré beaucoup de journalistes qui savaient très bien écrire, mais qui n'avaient pas ce truc de doueur dont je parlais, de side project, de vouloir vraiment faire avancer les choses, d'avoir une vision très esthétique de la chose et tout. Et ces profils-là, ils ont été très très durs, donc on a dû faire des concessions. Et en fait, que quelqu'un fasse des trails, des ultra trails de 80 bornes, techniquement,
génial,
dans son job, on s'en fout.
Ouais, on s'en fout.
Donc, c'est très bien qu'il le fasse. Et dans l'équipe, tout le monde fait du vélo, tout le monde fait de la rando. Il y a plein de gens qui font du running. Les trois quarts des gens font de l'escalade et tout. Mais c'est pas grave de pas être non plus un pro à ça, quoi. Les gens qui sont pro à ça, ils ont pas le temps de savoir écrire, d'être hyper créatif et
tout. Tout à fait,
enfin, tu vois, c'est chacun son métier, quoi.
Ok, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Thomas.
Je t'en prie.
C'était super. Est-ce qu'il y a des points que tu veux aborder en plus ou pas?
Ce que je peux dire, c'est je peux conseiller un bouquin qui est un bouquin qui a été un des éléments pas déclencheur, mais en tout cas qui venait confirmer notre envie de lancer Recto Verso, qui s'appelle Le manuel de l'antitourisme, qui a été écrit par un mec qui s'appelle Rodolphe Christin, je crois, et qui répond à tous les sujets un peu. Enfin, il répond pas parce qu'il y a pas des millions de possibilités, mais en tout cas, il fait un état des lieux, il fait un constat de notre relation au voyage, du tourisme et de tout ça, et qui est hyper intéressant. Et que je conseille en général aux gens qui sont intéressés par ces sujets de voyage, de tourisme dans le futur et de comment ça va fonctionner et tout. Donc ouais, il est très cool. Et en plus, c'est un bouquin qui date de 2008 ou 2007, je crois, qui a été réédité, donc tu peux le trouver en seconde main partout. Tu vois, c'est une bonne lecture.
Trop chouette. Voilà. Merci beaucoup, je la note. Vous venez d'écouter Enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast.